suis Chantal Dumas. Le mot que j'utilise, c'est artiste sonore, artiste audio le plus souvent, qui inclut des pratiques en création radiophonique, un travail d'installation sonore qui reste assez récent. Et sinon, ces derniers temps, je me disais un travail sonore, mais pour multi-interface. Comme un projet actuellement dans le métro de Montréal, par exemple, qui est un projet d'œuvre publique, avec un projet de l'artiste Rosemary Goulet, pour lequel j'ai développé tout un aspect sonore. Donc ça, c'est un type de travail. Il y a eu un projet d'exploration au BAMF avec les PDA, les Personal Digital Assistants, qui sont des petits ordinateurs comme les Blueberry, tout ça. Un autre type de travail audio. J'ai fait des choses pour le web aussi. Donc j'appelle ça des interfaces différentes, variées. Et je ne sais pas trop si je m'inclus vraiment, mais il y a des pratiques, en tout cas, allons-y largement, comme électroacoustique, on va dire plus musicale. Alors, donc, il y aurait ces trois genres. Il y aurait comme l'approche radiophonique, l'approche composition musique, mais musicale, et les interfaces variées.
Ladies and gentlemen,
nous aimerions vous présenter ce soir
the show of abilities.
le spectacle des habiletés.
Yes, that is like that. So we have each person has to present an ability.
Chacune des personnes ici présentes devront présenter une habilité.
It's possible to do it in group.
C'est possible de faire ça en groupe.
If you don't want at all, you don't need to present something.
Mais okay, but if you don't want to, you don't. Bon, alors si vous ne voulez pas vraiment présenter quelque chose, ce n'est pas obligatoire, mais ce serait tellement agréable.
Oui. The abilities can be something. So dancing,
ce qui m'intéresse en fait, c'est le son en général, qui peut être finalement la pensée qui a été développée au début du siècle dernier, puis sinon vraiment développée par Cage, dans l'idée que tout son devient musical puisqu'il est composé en fait, même si c'est une façon aléatoire. Donc ça peut peut-être un peu s'inscrire là-dedans, mais aussi tout simplement que, bon, pour spécifier, c'est que je travaille beaucoup avec les ambiances sonores. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé à partir de ça pour les productions radiophoniques et j'utilise dans différents projets. Donc, il y a un aspect qui... Enfin, une des réponses pourrait être, j'aime le côté narratif qui apparaît dans ces paysages, peu importe qu'ils soient sonores, urbains ou des ambiances comme les paysages sonores, tout ça. Et autant dans certains projets, je peux avoir travaillé avec des musiciens, en fait, qui improvisent, donc avec des éléments musicaux, autant que les projets à venir, puis un peu les précédents, au niveau compositionnel, j'ai des sons qui sont plus électroniques. Donc, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la variété du sonore et les différentes perspectives qu'ils peuvent donner les uns et les autres, en rapport les uns avec les autres, parce que j'aime bien quand ça cohabite, en fait. J'aime bien la rencontre de ces différents types ou catégories sonores, si on peut dire. Et pour moi, la façon dont j'aime les utiliser, puis je les pratiquais plus dans les productions radiophoniques, qui sont habituellement contenues dans une durée spécifique, puis qui sont toujours un peu narratives, tout ça, ça se rencontre, en fait, et ça complémentarise dans la narration. C'est-à-dire que c'est une narration qui est toujours assez lousse, comme on dit ça en français, assez...
assez libre.
Ouais, libre, c'est un beau mot. Et je me suis amusée aussi, ou je me suis appliquée plutôt à essayer de travailler des trames narratives qui se rencontrent, mais à travers le texte, puisqu'il en a. Et la voix aussi, d'ailleurs. La voix textuelle est aussi un autre élément du sonore. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a le sens qui peut appartenir à ce texte, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est avoir des thèmes différents ou dans la façon de le dire. Et ça, c'est un autre niveau. C'est la mélodicité, c'est ce qui se rapporte d'une certaine façon à la musique, au rythme, au thème, tout ça, donc qui compose la musique. Et ça, pour moi, même si c'est un texte, pour moi, la façon dont il est dit ou la couleur de la voix est toujours très importante à cause de ça.
Îles Féroé.
J'écris dans cette langue que je ne parle pas, mais que tu connais. Une langue perdue, chassée par des nouveaux courants.
Irlande.
Une langue imbibée de moteurs salines.
Brest, France, 48 degrés nord.
Un flot continu se repeint sur les papiers.
Gulf Stream. C'est à la rencontre des mers du Labrador, de Norvège et celle du Groenland que l'océan Atlantique prend son nom. À la limite du cercle polaire, dans un vaste champ de glace traversé par des chenaux aux formes de serpents de mer, dans un paysage jonché de glaciers, de icebergs et de banquises, dans ce milieu blanc où la terre, l'air et l'eau se confondent, solide, liquide, flocons flous et brouillard se mélangent.
Flot des glaces, mer des chiffres, nébuleuse.
J'en étais où avec ça? Ah oui, donc de travailler avec des trames narratives où il y a une rencontre justement entre la voix, les ambiances et les éléments musicaux, quand c'est comme ça. Et souvent, ça participe dans la narration, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, ça peut être un aspect glacé, qui va développer plus l'aspect émotif, je dirais. Et c'est un désir aussi de travailler à partir du sensible.
Trompeuse immobilité.
Et c'est cette approche qui parfois paraît peut-être un peu
à travers ces
quelque chose,
froides,
entre guillemets, d'élitiste, en tout cas, qui n'est pas grand public. Finalement, dans mon approche, je la pense assez différemment parce que probablement un des choix qui se posent dans cette sélection-là, c'est d'aller vers ce qui est déjà connu d'une certaine façon par tout le monde. Et ce connu-là, c'est le son dans lequel on vit. Et j'aime bien travailler avec des éléments qui viennent du paysage et de jouer avec ça pour les sortir hors contexte, en fait, puis les utiliser de façon abstraite. Donc, c'est comme ce matériau-là qui est connu par tous, en fait, puis que j'aime prendre, puis que j'aime présenter d'une autre façon pour surprendre d'une certaine façon. Et tout ça repose toujours sur l'écoute. Je travaille vraiment avec l'écoute. Et voilà, c'est là, c'est important. Puis il y avait... Ouais, c'est quoi? Il y avait une autre idée. C'était quoi? Ah oui, c'est ça. Est-ce que ça induit aussi de travailler avec ce que j'appelle des images, on va dire, naturelles, ce que je veux dire paysage, mais de façon très, très large. Ce que j'appelle le paysage quotidien, où tu es dans ta cuisine, tu poses un micro, puis c'est l'ambiance des gens qui discutent à la table. Ce qui m'intéresse, c'est cette petite scène-là qui se met en forme. Donc, ça pourrait être, disons, sur mon balcon pour prendre la voisine qui parle, ou juste l'ambiance telle qu'on l'entend, en fait. L'autre chose qui m'intéresse dans l'utilisation de fiction, c'est que on a tous une espèce d'encyclopédie personnelle ou de répertoire personnel qui sont rattachés, ce que je vais appeler, à ces images sonores, en fait. Et je l'ai fait dans certaines pièces, quand je l'utilisais de façon consciente, c'est peut-être... C'est pas toujours une dimension qui apparaît comme ça, mais c'est le fait que si moi j'utilise un son, puis ça a un sens, pour moi ça correspond à quelque chose, mais pour l'autre personne en face de moi, ça correspond à autre chose. C'est un avion qui passe dans le ciel, on dit oui, c'est un avion. Mais pour un, il va dire ah oui, ça me rappelle tel truc, puis il va plonger dans son propre souvenir quand il a pris l'avion pour aller à tel endroit, par exemple. Et pour moi, une chose qui m'intéresse, et ça c'est peut-être plus dans les éléments plus musicaux, quand je dirais un petit peu plus musicalement, mais toujours tout de même à travers des évocations, des images comme ça, c'est pour moi l'écoute, puis la perception qu'on fait des choses, c'est toujours un aller-retour entre ce qui est donné puis ce qu'on connaît de la chose qui est donnée, en fait. Donc, ce qui fait que dans l'écoute, on va prendre ce qui nous est donné, dans la forme qui est donnée, qui nous amène quelque part, mais on la construit en fonction de ce qu'on connaît déjà, de ce qui est proposé là-dedans. Ce qui fait que c'est une musique, même j'ai entendu certaines pièces radio, où m'ont raconté une histoire de ce qu'ils avaient entendu, puis je cherchais à savoir laquelle ils avaient écouté. Pour moi, c'était pas clair. Ils me disaient, oui, c'est telle chose. Je disais, ah, c'est intéressant, c'est pas ce que j'y ai mis, mais toi, c'est ce que t'en as pris, par exemple. Et d'une certaine façon, il y a ce qu'on peut appeler la liberté, une zone de... entre ce qui est donné puis ce qui est perçu. Mais pour moi, c'est ce qui est intéressant. C'est comme la méta-histoire que chacun se construira sur celle que moi, je propose, en fait. Il y a aussi ça qui m'intéresse, donc l'idée de... Ça joue dans le sensible, finalement. Comme je ne m'inscris pas dans un langage musical conventionnel, je peux dire, je suis quelque part ailleurs dans une zone qui est comme pas formatée, en fait, avec laquelle moi je m'amuse. Donc, quand je dis on me raconte une totale autre histoire, c'est pas tout à fait vrai, mais parce que je campe quand même tout un contexte, si je le prends vraiment d'une forme, c'est toujours assez narratif, donc ça s'inscrit toujours là-dedans. Donc, je pense qu'il y a tous les éléments de base qu'on peut composer quelque chose qui est similaire, si on veut raconter de façon plus narrative. Mais l'interprétation pourra varier, en fait. C'est un peu quand, lorsqu'on lit un livre, on peut trouver vraiment quelle est vraiment la thèse de l'auteur, comme on peut être plutôt intéressé par peut-être des éléments qui, eux, ne seront pas si importants, mais qui nous parlent pour nous. Donc, on raconte le livre avec un point de vue différent. Alors, je pense que c'est un peu la même idée, en fait. On est rarement tout à fait à la même place que l'auteur, en fait. Puis même l'auteur, une fois qu'il a terminé l'œuvre, n'est plus à la place où il était quand il l'a fait. Donc, lui-même peut avoir un autre point de vue sur ce qu'il a fait.
À la gauche de Montréal, 1998.
Qu'est-ce que c'était la phrase encore, là?
La fiction ne se trouve jamais bien loin derrière l'aspect documentaire et réaliste de mes productions. Ça sous-entendait donc que, a priori, tout ce que tu choisissais avait une ambivalence première. l'ambivalence donnée, si on veut.
Mais je pars juste du point de départ, en fait. C'est comme je travaille avec des enregistrements. À partir du moment que tu places un micro, tu n'es plus dans la réalité. Donc, tu es dans le décalage du temps. Tu es avec un médium, donc tu médiatises ce que tu viens de faire. Et déjà, le micro donne déjà un point de vue. Et dans le son, c'est ce qui me plaît beaucoup aussi. Une approche qui est peut-être un peu cinématographique sans l'être, mais qui est peut-être au niveau de l'emprunt de deux plans, par exemple. Même, de toute façon, déjà là, c'est faux, parce qu'au cinéma, si même si on est loin, on peut avoir un son qui est en premier plan. C'est plus ou moins juste, mais ça fait partie de la construction fiction. Et je trouve que déjà, au premier niveau, on est dans la fiction. C'est-à-dire qu'on prend une chose qui se déroule, puis on commence déjà à la construire, à donner l'angle dans lequel on l'enregistre, à faire un choix. Elle donne un cadre, en fait, comme on peut le donner pour une image, on le donne pour le son. Ce que je fais en gros plan, parce qu'on pourrait décider, comme par exemple, d'utiliser un micro-contact, au moment où tu es en train d'écrire sur la table, ça c'est un point de vue comme le phénoménologique du son en fait, et dans le son comme tel, comme je peux décider d'avoir un micro qui est positionné, je sais pas, à 33 cm, 33 cm de la table, donc ça me donne un point de vue, on entend que c'est quelqu'un qui écrit, je peux choisir le type de papier, donc je peux déjà commencer à composer quelque chose pour ressembler à une certaine réalité que je cherche, et déjà tout de suite en disant ça, c'est-à-dire que ma réalité devient sonore, c'est-à-dire que J'ai mon point de vue, bien sûr, d'enregistrement, qui est la partie technique, puis de composition déjà de ce que sera la narration. Comme je m'intéresse déjà au son, parce que je change de type de papier, ce qui sonne le mieux, et puis je pourrais intervenir, dire, mais écris plus vite, plus lentement, tout ça. Donc, je reviens à certains éléments qui composent le musical, en fait. Donc, je suis toujours là entre ma base, je viens de la musique, donc c'est toujours là, présent. Puis c'est composé parce que je détermine un certain nombre de choses. Donc c'est sûr que je suis dans une abstraction de la réalité puisque je la compose au point de départ. Donc je suis dans la fiction déjà.
T'es prêt?
Oui.
Ok, je fais.
Prise 4. Prise 4.
Je le touche. Prends-le de l'autre côté.
Prise 4.
Je continue parce que tu vas le vouloir chaud, en train de percoler.
Ça peut partir du son comme ça peut partir de quelque chose de plus abstrait en fait. Il y a une galerie à Victoria, dans BC, qui s'appelle Open Space, qui m'a passé une petite commande de commissariat, en fait. Et il fallait que je développe un thème sur lequel des œuvres allaient être déposées. Et la question qui m'intéressait là-dedans, c'était qu'est-ce qui existe en premier, avant même que l'œuvre existe? Et même en premier, c'est-à-dire avant même que ça devienne quelque chose de conscient. C'est-à-dire, quelle est la première impulsion? Quel est comme le travail, comme ça, qui se passe, qui finalement est vraiment sensible, je pense que c'est là que ça se situe pour moi, qui est là, qui va faire après ça qu'on peut parler d'une idée, d'une couleur ou d'un truc, puis on peut commencer à jouer avec un concept avant que l'œuvre existe, en fait. Et cette impulsion, c'est la chose la plus difficile à définir parce qu'on ne la connaît pas, en fait. Et en posant la question, la seule chose que je peux dire, c'était quelque chose d'assez intuitif, en fait. Et je sais pas comment dire, ça peut être juste un petit truc. Je lis quelque chose, puis là, whoop, il y a comme un truc qui s'allume, je sais pas quoi. Et qui fait que je dis, ah oui, là, il y a quelque chose. Puis souvent, je sais pas le préciser, en fait. Et ça peut pas être encore intellectualisé parce que cette espèce d'intention ou d'impulsion est comme là, mais c'est encore dans un degré d'émotion, probablement. C'est de l'ordre du sensible, en tout cas. Et après ça, qu'est-ce qui peut la stimuler, qui est plus facile à nommer comme tel? Mais là, ça peut être... Je l'ai fait à un moment donné, j'enregistrais tout ce que... dans la vie, différents moments de la vie. Et je le réécoutais, puis je disais, ah oui, ça, ce son-là, c'est intéressant, cette ambiance-là est intéressante. Ça peut être un point de départ. Je savais que j'allais l'utiliser. Puis c'est là que finalement, je suis assez visuelle dans ma façon d'en parler, bien que je fonctionne de façon auditive, c'est de dire, voilà, j'aime cette couleur-là, par exemple. J'aime l'ambiance. Et ça peut être un point de départ, dire, OK, il y a quelque chose là. Ou ça peut être d'autres fois plus intellectuel. Je lis des trucs, et puis je dis, ben voilà, cette chose-là m'intéresse, l'autre chose m'intéresse, et il y a deux, trois idées qui se mettent ensemble, puis là, il y a quelque chose qui peut se développer de l'ordre d'un concept, par exemple. Mais ce quelque chose-là n'est pas toujours nommable, en fait. Donc, ça peut être que cette lecture-là stimule, je ne sais pas, une émotion ou peut-être un état d'esprit, parfois. Quelque chose qui conditionne un état qui va m'amener à la création. Ouais, c'est un... Peut-être ce qui est toujours là, je ne sais pas, c'est que ça génère peut-être un état d'esprit, un état d'être. C'est peut-être ça, en fait. Il y a ces points-là qui sont prédéterminés, qui sont... Bon, dans mon cas, je parlerais de sensibilité, puisque c'est le moteur, c'est pas... Je ne fonctionne pas de l'extérieur pour aller vers l'intérieur, ou reste à l'extérieur. Je fonctionne vraiment de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, c'est-à-dire que d'une émotion, qu'elle soit d'une émotion intellectuelle ou sensitive ou quoi que ce soit, pour faire apparaître des choses. Ce qui fait que je n'ai pas une production énorme non plus, ça ne sort pas par... Ça ne sort pas par dizaines par année, mais d'une certaine façon, c'est que ça demande une maturation qui se fait à toutes sortes de niveaux. Comme je le situe d'un point de vue narratif, pour moi, je compose comme des scènes ou des images. Même si c'est quelque chose de plus musical, finalement, c'est une chose qui est pas mal toujours là. Et le point de... Ouais, et ce qui veut dire aussi que je réfère... Je vais parler d'images sonores, en fait. Tout le travail que je fais est jamais articulé avec du visuel. Sauf quelques projets qui peuvent être des projets de commande, mais habituellement, c'est vraiment pas ce qui prédomine, c'est vraiment le son qui prédomine. Et il y a des points de vue, comme je disais un petit peu tantôt, ne serait-ce que dès le point de départ, qu'on enregistre quelque chose, il y en a un qui est choisi. Et moi, j'ai décidé, c'est quand j'ai parlé de ça, c'était quand même assez... C'était spécifique à une période, je faisais une recherche assez particulière, où je voulais que dès le point de départ de la réflexion, que ça fasse partie de l'écriture, comme un peu une écriture sonore, en fait. Et de considérer comme élément important qu'il y avait l'espace. C'est vraiment l'espace qui était au point de départ de ça. Et que l'espace signifie aussi qu'on a toujours un point dans l'espace qui devient le point de référence à partir duquel on se situe. Et dans le cas de l'enregistrement, c'est celui du preneur de son, qui est mon point de référence. Moi, je suis quelque part, je ne peux pas faire abstraction si je tiens un micro ou si je mets un micro quelque part, que ça, c'est mon point d'écoute, mon point de référence. Et là où ça peut devenir, je peux faire une correspondance au visuel, c'est qu'il y a différents types de microphones avec lesquels on peut travailler, qu'ils soient directionnels, l'omni, le stéréo. Et ça induit déjà tout un espace sonore. Et pour moi, comme je travaille avec l'image, c'est-à-dire que je fais apparaître cet espace-là, et cet espace-là est une image. Puisque comme on fonctionne dans la vie, on ne fonctionne jamais en mono. au moins d'avoir un problème auditif, mais on fonctionne en stéréo, puis surtout en omni, en fait. Et je pars de ce point de vue-là, du point de vue de l'écoute de l'être humain, comment ça se développe, et c'est de ça dont je pars. Puis c'est de voir aussi, comme toujours, probablement une idée de globalité que l'être humain vit, même si on a l'impression qu'on vit vraiment dans nous-mêmes, on vit aussi toujours en relation de l'espace dans lequel on se trouve, puis de... Puis comme c'est l'espace public, aussi en relation, plus ou moins directement, en tout cas, d'autres êtres humains. Enfin, toujours ce lien-là qui est présent, qui existe. Et que je trouve intéressant comme d'enregistrer, comme ça, de mettre en place. Et donc, ça s'inscrit dans cette écriture. Et ça revient toujours à cette même question qui est, moi, en tant que preneur de son, puis compositeur, qu'est-ce que c'est mon rôle aussi, d'une certaine façon, comment je me positionne? Puisque mon outil de composition, dans ce cadre-là, précisément, est le microphone, parce qu'après ça, c'est le montage que j'en ferai. C'est comme la façon de mettre des notes sur un papier, en fait. Donc, ça comprend déjà, comme tel, beaucoup des composantes musicales, si je peux dire.
Souffle, comme quand souffle, il souffle, souffle.
Va mourir bientôt.
Le soleil blanc, le ciel azur et blanc, et le vent.
Parfois jusqu'au puits d'eau.
Les grands-pères, ils ont essayé.
Les maisons blanches.
Yeah.